Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ora nui,
et bienvenue dans cette seconde émission,
édition 2023,
qui va nous faire découvrir les règles selon lesquelles les anciens marquisiens s'établissaient sur une île nouvellement découverte.
Au cours de la première émission, nous avions suivi Homo sapiens depuis l'Afrique jusqu'à son arrivée aux îles Samoa, Tonga et son départ vers l'est du Pacifique. Malgré les difficultés de la traversée, des survivants ont finalement atteint les îles Marquises. Pour ce qui concerne les dates de cette arrivée, les spécialistes ne sont pas tous d'accord. Il y a 20 ans, ils s'accordaient à dire que le peuplement des Marquises avait commencé il y a un peu plus de 2000 ans, aux environs de la naissance de Jésus-Christ. Mais entre 2007 et 2011, des fouilles ont été effectuées dans différentes vallées de Ouahouka par les équipes de Guillaume Moll et Eric Comte, professeurs à l'UPF, l'Université de Polynésie française. Et leurs conclusions sont que le peuplement s'est produit plus récemment, et pour simplifier les choses, un peu avant l'an 1000. En me documentant sur les migrations polynésiennes, c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué. Désormais, les spécialistes tendent à les placer à une époque beaucoup plus proche de nous. Comment pouvait se passer l'arrivée des voyageurs sur des îles qui leur étaient nouvelles et inconnues? Ça, c'est vraiment une grande question. La réponse est très émouvante. Imaginez la joie de ces hommes touchant terre après des semaines de navigation. Allaient-ils directement à terre pour trouver de l'eau et de la nourriture? Longeaient-ils les côtes pour trouver un lieu de débarquement convenable ou pour s'assurer ou non de la présence d'autres humains? Au terme d'une période qui pouvait s'étirer sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, et si la troupe ne se composait que de quelques hommes, il leur fallait envisager de repartir chercher le reste de leur tribu et revenir avec de grandes pirogues doubles et beaucoup plus de monde. Peut-être certains se perdaient-ils au cours du voyage, laissant le reste de leurs compagnons s'installer seuls sans revoir leurs proches. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de quelque temps, il leur fallait s'installer définitivement selon des règles bien établies à l'avance. Pierre Otino Garanger est docteur en archéologie préhistorique et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Ethnologue de l'océan Indien et de la Polynésie, aux côtés de Marie-Noël de Berg, il s'intéresse à l'organisation humaine aux îles Marquises, où le plus souvent possible, en étroite coopération avec les Marquisiens, il mène des campagnes de fouilles et de restauration de sites ancestraux. Tous les deux ont aussi, entre autres, produit un ouvrage de référence sur le tatouage aux îles Marquises. Et dans un article que Pierre Otino m'avait confié afin de le traduire rapidement en anglais, celui-ci donne une explication sur la manière dont les Polynésiens s'installaient en arrivant sur une île nouvelle. Les nouveaux Polynésiens ne s'installaient pas de manière anarchique, style premier arrivé, premier servi. Ils s'appuyaient au contraire sur des règles illustrant leur vision du monde. Et cette vision s'organisait autour de deux axes. Le premier axe, linéaire et horizontal, c'est l'axe est-ouest. Dans la migration polynésienne, l'ouest, c'est le côté d'où l'on vient, de ce qui est connu, du passé et des traditions qui en sont le fruit, des ancêtres aussi. L'ouest, c'est aussi le côté du soleil couchant, celui de la nuit, de l'obscurité et donc de la mort. Ancêtres, passés et morts se rejoignent donc du côté ouest. La direction de l'est, quant à elle, c'est le côté où l'on va, celui de l'inconnu. Mais c'est aussi le côté du soleil levant, celui qui donne l'espoir d'une nouvelle journée, d'une vie nouvelle. L'est, c'est le futur inconnu, mais rempli de promesses pour les plus audacieux. C'est l'avenir réservé aux plus jeunes, ceux qui ont la vie devant eux. À leur arrivée sur une île, les plus jeunes s'installaient donc dans les vallées de l'est, et les plus âgés se partageaient celles de l'ouest. On trouve deux exemples de cette implantation est-ouest dans les légendes de Nukuhiva et Hiva'oa. À Nukuhiva, le plus jeune, le cadet des deux frères arrivés sur place, se nommait Taipinui Avaku. Il s'installa dans la vallée de Vai'i donnant sur la baie de Anakopeka, où il est à l'origine de la tribu des célèbres Taipi. De nos jours, cette vallée se nomme Taipivai. Son aîné s'appelait Teinui Ahako. Il se dirigea vers une baie plus à l'ouest, nommée aujourd'hui Taiohae, où il fonda la tout aussi célèbre tribu des Teii. À Hiva'oa, le jeune frère Pepane occupa la partie orientale de l'île, englobant Puama'u, tandis que son aîné Nuku s'installait dans la partie ouest, englobant Atuona
et Ta'aoa.
Interrogés par les Européens sur les raisons de leur querelle permanente, les anciens marquisiens expliquaient que cette habitude leur venait justement des désaccords incessants qui régnaient dès l'origine entre les deux frères de chaque île. En somme, ces guerres n'étaient que la répétition d'une tradition ancestrale. Nous venons de parler de l'axe est-ouest, président à la répartition des territoires à l'arrivée sur une nouvelle île. Pierrotino nous explique comment un deuxième axe, tout aussi crucial, explique l'organisation politique, sociale et religieuse de chaque vallée colonisée par les nouveaux occupants. Il s'agit en fait d'un axe vertical, d'une élévation partant de la mer vers les hauteurs de l'île. De même que l'axe est-ouest était une métaphore de la naissance et de la mort, l'axe mer-montagne de Tai à Outa est une métaphore structurelle de la vie terrestre de l'homme coincé entre la mer, d'où les légendes disent qu'il provient, et les montagnes, séjour des divinités et ultime marche vers le ciel, où demeure les dieux ancestraux et tutélaires.
Hey!
En résumé, plus on s'élève dans la vallée, plus on se rapproche du divin. C'est ce qui explique l'éloignement de la mer des Me'ae les plus sacrés et plus tapous. Sur l'île de Nukuhiva, le site de Kamuiheia Hatiheu en est un exemple frappant. En montant du village, on accède à un Tohua Koika, une place de fête publique, surmontée d'un Me'ae Tapu, à l'abri d'un banyan gigantesque, lui-même surmonté du site de I'ipona et de ses lieux de culte, eux-mêmes surmontés par des massifs cailloux recouverts de pétroglyphes, gisant au pied de la montagne Temoui, comme des messages pour les dieux résidant juste au-dessus. Cette image, cette métaphore du sacré siégeant au ciel, trouvait aussi un écho dans la vision des marquisiens de leur propre corps. La tête étant le sommet du corps, elle était donc la partie de celui-ci la plus proche du ciel, la plus proche des dieux, et donc la plus sacrée, la plus tapu. C'est ce qui explique le soin que les anciens portaient à la protéger et à empêcher quoi que ce soit, ou quiconque, d'y toucher, ou simplement de passer au-dessus. Pierrotino pense ainsi que l'érection des Pai Pai découle de cette croyance, et j'abonde en ce sens. En effet, je pense que seule une motivation religieuse pouvait conduire des hommes à fournir le travail de colosse consistant à déplacer des cailloux de plusieurs tonnes afin d'ériger de simples maisons d'habitation. Il fallait que la motivation soit plus élevée, si l'on peut dire. Mais ce n'était pas que de simples maisons sur de magnifiques terrasses paipai. En effet, on sait qu'à travers les paipai, les marquisiens ont voulu représenter sur terre la plateforme reliant les deux pirogues qui les avaient conduits jusqu'à l'île où ils se sont installés. Ce symbole très puissant se retrouve sur de nombreuses îles de Polynésie française et du Pacifique, et il est particulièrement évident à l'île de Pâques Rapa Nui, où les ruines actuelles des maisons anciennes montrent qu'elles avaient littéralement la forme de pirogues renversées. Ainsi surélevées, les maisons et les têtes de leurs habitants étaient plus proches des dieux, et aussi de leur bonté. La nuit, personne ne pouvait non plus passer au-dessus de ces têtes couchées les unes à côté des autres, dans le Haïamoe, la maison d'habitation, la tête reposant sur le Puako ou Poko, le demi-tronc de cocotier qui leur servait d'oreiller, et qui s'allongeait sur toute la longueur intérieure de l'habitation, interdisant ainsi toute intrusion extérieure. Bref, chez les anciens marquisiens, l'installation sur une île ou dans une vallée ne relevait pas de l'improvisation. Tout était calculé dans un cadre politique, social et religieux qu'il maîtrisait parfaitement. Dans la prochaine émission, nous entendrons comment, faute de pouvoir écrire l'histoire de leur arrivée dans l'archipel de la Terre des Hommes,
Les anciens marquisiens ont imaginé des légendes illustrant leurs origines, leur permettant ainsi, en toutes circonstances, de relier oralement le passé au présent.
Et maintenant, une remarque de vocabulaire qui concerne les marquisiens et aussi tous ceux qui s'intéressent à leur langue. Pour titre de mes émissions,
j'ai choisi le mot « akakai ». C'est un mot nouveau dans la langue marquisienne. Il s'écrit « a » accent circonflexe, « k-a-k-a-i ». Mais il n'existait pas dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires, on trouve « ha-akakai » avec un H, « h-a-a-kakai » ou « a-akakai » sans H. Et ces deux mots se réfèrent aux légendes, aux récits ancestraux, et pas à l'histoire. Lorsque l'Académie marquisienne a voulu créer des mots nouveaux, en particulier pour l'école, elle a choisi, pour traduire l'histoire qu'on enseigne à l'école, elle a choisi le mot « te ite, te kite ha'a'enana », la connaissance des coutumes humaines. C'est un mot assez vaste, évidemment, qui s'applique surtout aux marquises. Quand j'ai consulté le site de l'Assemblée de Polynésie française, qui a été traduit dans toutes les langues et en marquisien par Toti, Teiki et Uhupoko de Wapo, le mot qui a été choisi pour l'histoire de l'Assemblée, c'est ce fameux mot de Akakai, A accent circonflexe. De même, pour les histoires, non pas de légendes, les histoires ancestrales, mais pour les histoires inventées, les petites histoires, c'est aussi ce mot que l'Académie avait choisi pour intituler son recueil d'histoire moderne, Akakai. C'est donc naturellement ce mot que j'ai choisi comme titre de mes émissions. Te Akakai ou te Henua Enana, te Fenua Enata.
L'histoire de la Terre des Hommes, l'histoire des îles Marquises.
À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf,
kopo, K-O-P-O,
ou sur mon Vini 87 756 719. Merci au groupe Marquisard pour un extrait de leur musique, ainsi qu'au groupe KVE Mohetai pour leur chanson Te Tapu Nui, le grand tabou, qui demande aux Marquisiens où est passée leur fierté et leur courage, et aussi comment l'argent, ce pouvoir moderne, a pu remplacer le mana du tapu, cette loi ancestrale qui régissait la vie des anciens. Chers amis, cette série d'émissions est une longue fresque radiophonique retraçant l'histoire tragique de la Terre des Hommes. Rendre hommage au passé est un devoir de mémoire, mais il ne faut pas en oublier le présent résultant de ces siècles écoulés. C'est pourquoi j'ai aussi voulu rendre hommage aux artistes musiciens marquisiens de notre temps, dont la voix est le porte-parole moderne des marquises d'aujourd'hui. Mis à part les toutes premières émissions, toutes les autres seront illustrées d'une chanson marquisienne dans son intégralité. Certains de ces artistes musiciens m'ont amicalement accordé le droit de les publier aussi sur mon site teeo.com, rubrique audio, dans laquelle vous pourrez les écouter à nouveau, accompagnés de leur texte original, agrémenté de ma traduction. Et rappelez-vous, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. À bientôt. Apai, o oa iho. No te atie.